Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. 3 ans après le hashtag MeToo, des témoignages de victimes d'inceste arrivent par centaines sur Internet, ou quand le livre de Camille Kouchner, La Grande des Familias, a contribué à libérer la parole des victimes. Le vaccin contre le Covid-19, précieux pour espérer retrouver la vie d'avant. Avec Daniel Messager, nous verrons comment les soignants optimisent les doses. Et puis nous irons au Mexique où, sous la pression, le gouvernement accepte finalement de rouvrir dès lundi les restaurants.
Les invités de la matinale à 8h10, 7h50. Ouais. Patricia Martin, vous recevrez
la comédienne Sarah Biasini pour un livre La Beauté du Ciel chez Stock.
Et puis à 8h20, question sur la psychoécologie. Nous en parlerons avec Boris Cyrulnik. Son dernier livre, Des âmes et des saisons, psychoécologie, va paraître mercredi chez Odile Jacob.
France Inter.
Quand un livre brise l'omerta sur l'inceste depuis la sortie de La Familia Grande de Camille Kouchner, eh bien de nombreux témoignages inondent désormais la toile sous le hashtag MeTooInceste.
Dans ce livre, Camille Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir abusé de son frère jumeau. Alors pour la plupart, ces messages, ces témoignages sur Internet décrivent les violences subies sur le modèle du mouvement hashtag MeToo qui avait enclenché, on s'en souvient, une vague de dénonciation des agressions et harcèlement sexuel. C'était en 2010. Alors ce livre, comme ses messages, illustre, Laurélie Carrive, le poids du silence dans les familles où il existe des pratiques incestueuses.
Un tiers des Français connaissent au moins une victime d'inceste, d'après un sondage paru en novembre. Et pourtant, il y a ce silence écrasant. Isabelle Aubry préside l'association Face à l'inceste.
On a enquêté là-dessus il y a déjà quelques années auprès de nos adhérents. Dans 83% des cas, selon les victimes que nous avons interrogées, on leur a intimés de se taire. Ils ont reçu une injonction au silence. La victime, elle pense, en parlant à la famille, qu'elle va être protégée. Malheureusement, c'est rarement ce qui se produit.
D'où l'importance de pouvoir déceler les signaux envoyés par un enfant victime. Des gestes ultra-sexualisés, un état d'extrême agitation ou tout changement brutal du comportement. Sauf que les enseignants, par exemple, ne sont pas ou peu sensibilisés à cette question. C'est ce que constate Sophie, membre de l'association Arévi.
Moi, je suis également enseignante. Il y a des affiches, il y a des numéros verts qui sont transmis, mais il n'y a pas de formation pour dire aux gens « soyez attentifs, recueillez la parole, vous êtes aussi là pour ça ».
D'où la frilosité souvent du personnel scolaire, dit-elle.
Les gens ont plus peur de lancer une enquête à tort que du risque de laisser une victime sans soutien.
Un seul réflexe à avoir si un enfant se confie à vous, prévenir les autorités.
Laurélie Carrive. Soulagement après l'annonce d'une baisse de la cadence dans la production de vaccins. Le groupe américain Pfizer, associé à l'allemand BioNTech, annonce finalement un plan pour accélérer le rythme et revenir au calendrier initial de livraison à l'Union européenne à partir de la semaine du 25 janvier. Soulagement car les Français sont pressés de retrouver leur vie d'avant. 54% veulent être vaccinés, c'est 15 points de plus qu'en décembre dernier, selon un sondage IFOP pour Le Parisien dimanche. Une majorité de Français se dit d'accord également pour le passeport vaccinal, afin surtout de pouvoir prendre l'avion et aller notamment à l'étranger. Et ces vaccins, bien, ils sont précieux, ils sont attendus partout. Et quand ils arrivent, il ne faut surtout pas perdre de dose, car elles ne se conservent pas bien longtemps. Ne pas perdre et même optimiser en utilisant le maximum du flacon. 5 vaccinations normalement par dose, mais dans la pratique, on peut en faire 6. Reportage à l'hôpital Tenon où les soignants avaient pris rendez-vous pour se faire vacciner. Daniel Messager.
Le docteur Hanchou, médecin volontaire pour vacciner, avait strictement rempli l'agenda pour ne pas perdre de dose, mais une personne ne s'est pas présentée, alors il restait une dose inutilisée.
Afin de ne pas perdre cette dose, nous avons des listes d'urgence, des gens qui n'avaient pas pu prendre rendez-vous et que l'on appelle. J'ai une dose qui va se perdre, venez rapidement vous faire vacciner. On a eu l'occasion d'avoir une personne qui est au contact direct des malades et qui n'avait pas rendez-vous pour se faire vacciner et qui a pu bénéficier de cette dose qui aurait été perdue sinon. Ça aurait été quand même stupide.
Ne pas perdre de dose en utilisant aussi une 6e dose. Les flacons sont prévus pour vacciner 5 personnes. Mais la rareté du sérum pousse à tout récupérer. Mathieu, infirmier.
Il y a toujours plus dans les flacons que ce dont on a besoin. C'est par sécurité. Vu qu'on n'en a pas beaucoup, on utilise même la dose de sécurité.
Des seringues que Mathieu prépare à l'avance en utilisant aussi cette précieuse 6e dose.
Là, je prépare les seringues que je vais pré-remplir avec le vaccin. Je mets l'aiguille qui servira à l'injection. Et une fois que j'ai fini de préparer mes 6 seringues, je remets tout au frigo en attendant la venue du patient. Et à ce moment-là, je sors la seringue du frigo et j'injecte.
À l'intérieur du frigo, qui doit faire moins de 4 degrés, les seringues peuvent être conservées 6 heures.
Daniel Messager, il faut sauver la montagne. C'est l'appel au secours lancé ce matin par le PDG du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, dans le journal du dimanche. Alors que les vacances scolaires d'hiver vont démarrer le 6 février, il exhorte le Premier ministre à rouvrir les stations de ski françaises pour les sauver du désespoir. Le gouvernement doit se prononcer dans 3 jours sur une éventuelle réouverture des remontées mécaniques. Autre cri d'alarme lancé cette fois-ci au Mexique. Au Mexique, comme partout dans le monde, les restaurants sont à l'arrêt. Le Mexique traverse la phase la plus aiguë de la contagion, avec une moyenne de 1000 morts par jour, 139 000 décès au total du Covid-19. Dans la capitale mexicaine, les hôpitaux sont au bord de la saturation. Et c'est dans ce contexte alarmant que les restaurants de la capitale, qui donnent du travail à plus de 100 000 personnes, ont forcé le gouvernement local à lever l'interdiction de recevoir des clients. Lundi, Emmanuel Steele, les restaurants pourront donc ouvrir, mais sous certaines conditions et uniquement en extérieur.
Le gérant d'un grand restaurant de Mexico, Rodrigo Pérez, montre la terrasse qui accueillera à nouveau les clients lundi. 500 établissements de la capitale ont mis les autorités devant le fait accompli. Ils reprenaient du service. Ouvrir ou mourir, c'était le slogan de leur mouvement. Ils affirmaient que sans clients, ils ne passeraient pas l'hiver.
Nous avons de nombreux employés, donc beaucoup de familles dépendent de nous. Notre but n'est pas de faire des affaires en rouvrant le restaurant, mais plutôt de maintenir les emplois et d'assurer des revenus à ces familles. Nous ne cherchons pas à vivre des aides du gouvernement, ce que nous voulons, c'est travailler.
Prise de température, tapis sanitaire, registre digital des clients, le gérant énumère une dizaine de mesures mises en place en accord avec la mairie de Mexico pour éviter la contagion. Le personnel soignant se dit désespéré face au comportement d'une partie de la population, ceux qui ont saturé les plages pendant les vacances et ceux qui vont au restaurant. Cependant, Lorena Guerrero, épidémiologiste dans un grand hôpital public, invite à ne pas juger trop durement les restaurants. Elle déplore le manque d'aide publique qui leur permettrait de rester fermés. Mexico, Emmanuel Stelz, France Inter.
Et ajoutons que la France, elle, a passé hier le cap des 70 000 morts. 24 985 personnes sont hospitalisées actuellement, dont 2731 en réanimation. Retour en France après des semaines de crise. Les dirigeants du CFCM sont parvenus hier à un accord sur une charte des principes de l'islam. Cette évolution était réclamée par l'exécutif. Elle doit donner le coup d'envoi d'une vaste restructuration de la deuxième religion du pays. Laetitia Germont.
Ce texte de 7 à 8 pages réaffirme le principe de l'égalité homme-femme et le rejet de certaines pratiques coutumières prétendument musulmanes. Il met en avant l'importance de la compatibilité de la foi musulmane avec la République et insiste sur le rejet de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Cette charte doit encore être validée par l'ensemble des fédérations du Conseil français du culte musulman avant d'être présentée à Emmanuel Macron. Cette étape permettra de lancer la prochaine mise en place d'un Conseil national des imams qui sera chargé de labelliser les imams exerçant en France. En cas de manquement à la charte, il pourra leur retirer leur agrément. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué une avancée très significative et la marque d'un engagement contre l'islam politique.
Laetitia de Germont. Le Made in France à l'honneur sur Instagram, ou quand le réseau social permet de mettre en lumière les talents de couturières confinées ou sous couvre-feu. Depuis mars dernier, les comptes des vêtements faits main, donc à la maison, se multiplient et ça fonctionne. Des doigts de fée qui arrivent même à en vivre, Marie-Hélène Herroir.
Cet hiver, Daphné a confectionné une cape en laine pour une amie et l'a postée sur Instagram. La machine s'est vite emballée aujourd'hui. Elle refuse des commandes et surtout, c'est devenu son job étudiant.
Au début, c'était pas du tout dans l'objectif de se faire de l'argent. Au contraire, j'étais dans le négatif. Bon, au bout de une ou deux commandes, j'ai compris qu'il fallait que je demande les sous avant. Du coup, c'était super satisfaisant de se dire que j'ai cousu quelque chose et en plus, ce que j'ai fait me rapporte de l'argent.
Armelle Ferré, elle, arrive à se payer au SMIC grâce à ses 4500 abonnés. La sage-femme coud depuis toujours, mais sa reconversion est récente. Le moyen pour elle de rester active loin des hôpitaux, tout en élevant ses 3 enfants.
La facilité d'Instagram, c'est de pouvoir mettre des photos et de pouvoir, grâce aux hashtags, cibler un peu les personnes qui veulent rechercher un produit qu'on peut faire. C'est gratuit et du coup, ça permet d'avoir une vitrine quand on ne vend pas dans des boutiques. On peut faire ça vraiment dans notre coin. Voilà.
Une vision de la femme 2.0, mère au foyer et entrepreneuse, qui plaît beaucoup à Clotilde, la vingtaine. Elle envisage déjà de faire le même choix de vie.
Ce serait vraiment un moyen de rester occupée efficacement. Je préfère faire un métier qui me plaît tout en profitant de ma famille.
Des activités qui posent une autre question. Certaines de ces créatrices ne déclarent pas leurs revenus.
Marie-Hélène Héroir.
Dans le journal de Laurence Thomas, le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski, on va le redire, hein, il n'y a plus aucun département en vigilance neige, verglas en France. Et cependant, il reste quelques flocons sur les massifs de l'Est.
Tout à fait, vers 500 mètres d'altitude entre les Vosges et les Alpes du Nord. Mais d'une manière générale, on peut dire que partout en plaine, l'épisode de neige est terminé. S'accompagnant cet après-midi d'un net redoux avec 4 degrés prévus en moyenne du Grand Est au Lyonnais, 6 à 10 sur la plupart des régions et un maximum de 13 à 15 pour le bassin méditerranéen où le vent très turbulent va maintenir un ciel dégagé du Golfe du Lion à la Provence. Mais sur la Corse, il faut tout de même prévoir quelques ondées ce matin. Dans le sud-ouest, notamment au sud de la Garonne, l'ambiance sera le plus souvent maussade, avec de la neige à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel d'éclaircie, déjà présent actuellement sur la façade atlantique, va s'élargir, chassant les pluies résiduelles de la matinée que l'on trouve notamment du centre au nord de la Seine.
Jean-Michel Golinski de Météo France.